Vous écoutez, on lit pour vous.
Un changement de discours s'impose car l'obésité est une maladie, pas un choix. Un texte de Mouhamad Ilyas, paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir. L'auteur est candidat au doctorat et chercheur engagé à l'Université Concordia. Ses travaux portent sur la manière dont l'obésité et le diabète de type 2 agissent indépendamment sur le tissu adipeux dans différentes régions du corps. Il cherche également à comprendre l'incidence de la perte de poids sur les caractéristiques régionales du tissu adipeux chez les personnes atteintes ou non du diabète de type 2. L'obésité est-elle une maladie ou simplement un excès de poids qualifié à tort de maladie? Depuis des années, les scientifiques et les cliniciens du monde entier s'efforcent de trouver la réponse. Or, une commission internationale de spécialistes a récemment proposé une définition inédite de l'obésité, visant à réduire la stigmatisation et à fournir un cadre plus clair pour le diagnostic et le traitement. La nouvelle définition remet en question les idées dépassées selon lesquelles l'obésité est le résultat de mauvais choix, d'un manque de discipline ou de la paresse. Elle affirme plutôt ce que la science a constamment démontré. L'obésité est un état caractérisé par un excès d'adiposité, avec ou sans distribution ou fonction anormale du tissu adipeux, et dont les causes sont multifactorielles, et encore incomplètement comprise. Composée de 58 spécialistes internationaux, parmi lesquels des personnes ayant une expérience vécue, la commission novatrice, dont les conclusions ont été publiées dans The Lancet Diabetes and Endocrinology, appelle à un changement de paradigme dans le diagnostic de l'obésité. Son rapport souligne que si l'indice de masse corporelle, IMC, a été largement utilisé comme outil de dépistage, il est insuffisant en tant que critère de diagnostic autonome. La commission recommande plutôt de confirmer l'excès d'adiposité par la mesure directe de la masse grasse ou par des critères anthropométriques supplémentaires, par exemple le tour de taille, le rapport taille-hanche ou le rapport taille-stature. Cette approche tient compte de la complexité de l'obésité et de la nécessité de disposer de mesures objectives pour évaluer avec précision ses effets sur la santé. La commission propose également de classer l'obésité en deux catégories. L'obésité préclinique et l'obésité clinique, reconnaissant ainsi son hétérogénéité et les limites des mesures actuelles basées sur l'IMC. L'obésité préclinique repose sur l'identification des risques avant l'apparition de complications et l'obésité clinique sur l'apparition de complications. Cette approche considère l'obésité comme une maladie due à des facteurs tels que la génétique, la biologie, l'environnement et les inégalités systémiques, et non comme le simple résultat de comportements individuels. L'obésité clinique se caractérise par un IMC et des signes de complications liés à l'obésité. Ces complications peuvent être des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle, des maladies hépatiques ou rénales, ou encore des douleurs articulaires chroniques et graves, par exemple aux genoux ou aux hanches. Les personnes répondant à ces critères peuvent bénéficier d'options de traitement pouvant inclure des programmes alliant régime et exercice physique, ainsi que des médicaments contre l'obésité. On propose ainsi de comprendre l'obésité en d'autres termes que celui du changement des habitudes de vie, un nouveau paradigme qu'il est urgent d'adopter. Au lieu de considérer le poids comme unique facteur indicateur, on préconise en particulier une enquête scientifique sur les racines génétiques, environnementales et physiologiques de l'obésité. Cette redéfinition n'est pas seulement sémantique, il s'agit d'un appel à l'action. En nous concentrant sur les facteurs biologiques, génétiques et environnementaux de l'obésité, nous détournons la conversation du blâme et la réorientons vers des solutions qui donnent la priorité à l'équité en matière de santé. Nul ne reprocherait à une personne d'être atteinte de diabète ou d'asthme, alors pourquoi stigmatiser les personnes souffrant d'obésité? L'obésité est un problème de santé publique crucial qui touche des millions de personnes dans le monde. Les données canadiennes mettent en évidence la prévalence alarmante de l'obésité, 26,8%, et du diabète, 8,1%. Pourtant, la stigmatisation liée à l'obésité empêche de nombreuses personnes de se faire soigner. Des études montrent en effet que les préjugés sur le poids véhiculés par les prestataires de soins de santé entraînent des retards de diagnostic, de moins bons résultats thérapeutiques et des taux de mortalité plus élevés. On parle de préjugés sur le poids lorsque des professionnels de la santé entretiennent des croyances ou des stéréotypes négatifs à l'égard du poids d'une patiente ou d'un patient. Ces préjugés peuvent conduire les patients à recevoir des soins inadéquats, ce qui peut avoir de graves conséquences. Le nouveau cadre offre la possibilité de changer cette situation en légitimant l'obésité en tant que problème médical méritant des soins compatissants et fondés sur des données probantes. Si les avancées telles que les médicaments contre l'obésité, Ozempic, Wegovy, etc., sont prometteuses, elles ne représentent qu'une partie de la solution. Les véritables progrès exigent des changements systémiques, notamment une couverture d'assurance élargie pour les traitements de l'obésité, une sensibilisation à l'obésité dans le cadre de la formation médicale et la prise en compte de facteurs sociétaux tels que les déserts alimentaires et les modes de vie sédentaires. Plus important encore, la voix des patients doit figurer au premier plan. Leurs témoignages montrent que l'obésité ne constitue pas seulement un chiffre sur une échelle, mais aussi une expérience vécue, façonnée par la biologie, les traumatismes et les barrières systémiques. La nouvelle définition ouvre la voie au démantèlement de la stigmatisation et à un traitement de l'obésité empreint de dignité. Il est temps de cesser d'imputer aux individus leur obésité et de bâtir un avenir où chaque personne, quelle que soit sa taille, aura accès aux soins, au respect et aux possibilités dont elle a besoin pour s'épanouir. C'était « Un changement de discours s'impose car l'obésité est une maladie, pas un choix ». Un texte de Mouhamad Elias, paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir.
Quel avenir pour le mammouth du Mile End? Un texte de Maxime Bergeron, paru le 4 février 2025 dans La Presse. Je passe devant, plusieurs fois par semaine, sans plus trop le remarquer tellement il fait partie du paysage. Le bâtiment est pourtant difficile à rater. C'est un mastodonte de briques rouges de 7 étages, surplombé par l'un des derniers châteaux d'eau de Montréal. Une forteresse en forme de paquebot qui domine le quartier du Mile End depuis 1924. L'entrepôt Van Horn, situé à l'angle du boulevard Saint-Laurent, trône sur une mince bande de terre, enserrée entre un chemin de fer du Canadien Pacifique et un pont d'étagement. Il a connu plusieurs incarnations en un siècle. On y a stocké des produits de meunerie, des composants chimiques, des meubles, des documents d'archives. Et depuis 2 ans, plus rien. Les derniers locataires ont plié bagage en 2022. Le bâtiment est maintenant recouvert de graffitis de bas en haut, jusqu'au sommet de son iconique château d'eau. Ses propriétaires investissent une petite fortune pour le sécuriser en raison des vandales et des sans-abri qui y pénètrent régulièrement. Disons que le paquebot a déjà eu meilleure mine. Ce n'est pas l'intérêt qui manque pourtant. L'ancien entrepôt est l'objet de bien des convoitises. Son sort devrait, enfin, être tranché une fois pour toutes dans les prochains mois. ma prédiction. Ce sera l'un des dossiers les plus chauds à suivre en 2025 en matière de protection du patrimoine à Montréal. Toutes les instances possibles et imaginables le surveillent au microscope. Différents projets de conversion ont été envisagés au fil des ans, avec comme résultat, chaque fois, une levée de boucliers des populations voisines et d'une panoplie d'organismes. Un vent de panique a soufflé dès 2013. Une entreprise proposait de recouvrir la façade d'un mur rideau en verre. Le concept aurait totalement dénaturé l'architecture industrielle du bâtiment. L'idée est morte au feuilleton, et c'est tant mieux. L'entrepôt a changé de main en 2019, une transaction de 12 millions de dollars. Le nouveau proprio, la firme montréalaise Rester Management, épaulée par l'architecte Thomas Balaban et le designer réputé Zébulon Perron, a déposé en 2022 un tout nouveau projet. Il n'a pas renouvelé les baux des derniers locataires tellement il y croyait. La proposition allait comme suit. Convertir le bâtiment en hôtel boutique de 120 chambres en incluant des commerces et des espaces de bureaux. Encore une fois, scandale. Le concept a été soumis à une consultation publique à laquelle plus de 10 000 citoyens ont participé en ligne. Ils n'en voulaient pas, très majoritairement. Parmi les raisons invoquées, la crainte d'un embourgeoisement accru du quartier, déjà assez bobo, l'absence de vocation communautaire dans l'immeuble et la présence de l'hôtel lui-même. Retour à la table à dessin. Nouvelle proposition, cette fois au printemps 2024. Le promoteur a fait ses devoirs. Sa dernière mouture comprend toujours un hôtel, ainsi que des commerces et des bureaux. Mais en plus, elle intègre des locaux pour des artistes et des groupes communautaires qui seraient loués sous leur valeur marchande. Et ça ne ressemble pas à un petit ajout cosmétique greffé à la va-vite. Selon les plans préliminaires que j'ai pu consulter, ces locaux créatifs s'étaleraient sur 47 000 pieds carrés contre 79 000 pieds carrés destinés à l'hôtel. Une part non négligeable du projet qui comprendrait aussi un agrandissement flambant neuf de 25 000 pieds carrés. Deux groupes communautaires sont en discussion avancée afin de gérer la location de ces espaces, m'a affirmé un représentant du propriétaire. Ce partenariat ressemblerait à celui conclu dans un autre immeuble industriel du Myland, rue de Gaspé, converti en bureau en 2013. Dans le cadre de cette transaction, un bloc de 4 étages avait été réservé pour environ 400 artistes. Ils ont pu y signer des baux à taux préférentiel d'une durée de 30 ans, un genre de bulle anti-spéculation pour les protéger des hausses de loyers excessives. Une réplication de ce modèle me semble d'assez bon augure pour assurer une acceptabilité dans la communauté tissée serrée du Myland. Vous écoutez « Quel avenir pour le mammouth du Myland », un texte de Maxime Bergeron paru le 4 février 2025 dans la presse. Et l'architecture? Le respect du patrimoine. Ce sera le nerf de la guerre. La nouvelle version du printemps 2024 a été mieux accueillie que la première selon mes informations, mais il y aura encore plusieurs correctifs à apporter pour se plier aux demandes de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal et à celles de l'organisme Héritage Montréal, entre autres. Le défi architectural est immense, car l'immeuble a toujours conservé sa fonction d'entreposage depuis 1924. Il n'a pas de fenêtres, à part quelques minces ouvertures. Comment percer des trous à la grandeur sans trop en dénaturer la façade? Les architectes veulent profiter de la profondeur surdimensionnée des murs, l'équivalent de 3 rangées de briques, pour reculer le plus possible les fenêtres vers l'intérieur du bâtiment. Il garderait ainsi son aspect massif lorsqu'on le regarde de côté. C'est encore trop d'ouverture au goût de l'arrondissement. Le promoteur a présenté une autre version révisée il y a une dizaine de jours en présence du Conseil du patrimoine de Montréal et d'Héritage Montréal. Ces organismes transmettront leurs avis et recommandations d'ici le prochain mois. Suspense. La balle se retrouve aujourd'hui dans le camp des autorités municipales. Elles devront trancher les deux questions suivantes. Quel est le maximum d'éléments patrimoniaux qui peuvent être conservés sans compromettre la viabilité financière d'un projet qui se calculera en dizaines de millions? Et si la population n'est toujours pas jugée à la hauteur, quel sort sera réservé à l'entrepôt Van Horn? Le promoteur souhaite ardemment aller de l'avant. Compréhensible, c'est son mandat. Il entrevoit un modèle d'affaires rentable. Plusieurs groupes hôteliers, dont une enseigne québécoise très connue, sont très intéressés à s'installer sur Van Horn, m'affirme-t-il, pour faire un projet à la saveur du plateau. L'avenue d'un hôtel serait d'autant plus logique dans ce quartier qui en est dépourvu, que la ville de Montréal vient d'interdire en pratique les locations de type Airbnb sur son territoire. Personnellement, ce type d'usage proposé ne me choque pas du tout, au contraire. Si tout ça achoppe, après la prochaine ronde de consultation, le propriétaire pourrait tout simplement relouer ses locaux pour faire de l'entreposage. Le zonage l'y autorise. Ou encore, aligner des serveurs informatiques sur des étages entiers. Il a déjà eu des offres en ce sens. Il pourrait aussi revendre le bâtiment à un acheteur qui devra relancer un autre projet à partir de zéro. En tenant compte du fait qu'il est impossible de construire des logements sur ce site puisqu'il est situé trop près de la voie ferrée. Autre option. Laisser l'entrepôt vacant accumuler les graffitis pour les années à venir. Quand je vous dis que ce sera un dossier brûlant à suivre en 2025, c'en sera tout un. C'était « Quel avenir pour le mammouth du Myland », un texte de Maxime Bergeron, paru le 4 février 2025 dans La Presse.
Radio-Canada veut vous entendre. Un texte de Radio-Canada paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Radio-Canada invite les personnes racisées, en situation de handicap et qui s'auto-identifient à la communauté 2ELGBTQIA+, ainsi que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, à s'exprimer sur sa programmation et ses contenus. Le diffuseur national veut vous entendre sur la pertinence des émissions que Radio-Canada offre sur ses différentes plateformes et pour savoir si vous sentez que ces dernières reflètent votre réalité. Au cours des dernières années, Radio-Canada a fait des efforts avec son plan triennal sur l'équité, la diversité et l'inclusion, EDI, sa stratégie nationale autochtone et son plan national sur l'accessibilité, afin de devenir une organisation plus inclusive et pour mieux refléter la société canadienne d'aujourd'hui devant et derrière l'écran. Les points de vue exprimés par les personnes qui participeront à cette consultation permettront d'enrichir la réflexion et de nourrir les stratégies des décideurs du média public. Cet exercice s'inscrit dans le contexte de la nouvelle licence de radiodiffusion accordée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC. Les discussions et les échanges visent aussi à accroître la transparence et la confiance envers le diffuseur public, en plus de renforcer les liens avec les différentes communautés. Vous pouvez participer en exprimant votre intérêt à participer à un panel de consultation qui sera mis sur pied après le 21 février. Info, page web, consultationradiocanada.ca. Consultation au pluriel, radio-canada.ca. C'était « Radio-Canada veut vous entendre ». Un texte de Radio-Canada paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue.
Les Invisibles, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 20 janvier 2025 dans Le Devoir. Au dépanneur de la station-service, au milieu de la neige sale et des effluves d'essence, les portes automatiques refusent de s'ouvrir. Par la fenêtre, la caissière fait signe à l'homme de bouger les bras, de s'agiter, afin que l'œil magique le repère et active le mécanisme des portes. Rien à faire. Quelqu'un d'autre arrive, les portes s'ouvrent tout de suite, comme la mer devant Moïse. Aux toilettes, la distributrice automatique de savon est-elle en panne? Impossible en tout cas d'en tirer quoi que ce soit. L'eau ne jaillit pas non plus du bec du robinet. Il a beau passer et repasser les mains sous le capteur censé activer le jet, pas même la plus petite goutte ne perle. Les autres clients qui se lavent les mains en même temps n'éprouvent aucun problème. Jusqu'à quel point certains d'entre nous sont-ils invisibles dans la société d'aujourd'hui? Il semble que nous passions, au minimum, 8 heures par jour rivés devant nos écrans, ce voile pixelisé devant lequel nous croyons envisager la réalité. Par habitude de cette servitude, nous consultons notre téléphone à tout moment, accroché à nos services de messagerie comme un pèlerin à son chemin de croix. Notre visage et nos empreintes digitales servent de sésame pour accéder à la caverne des données numériques. Parfois, il arrive tout de même que nos appareils ne nous reconnaissent pas, même s'ils sont précisément configurés à cette fin. Rien de rien ne fonctionne plus alors, sinon des codes. Est-ce que nous existons vraiment autrement que comme des numéros dans cet univers numérique? Voici un moment de l'histoire où il vous est recommandé à la ronde de quitter les plateformes numériques parce que leurs propriétaires ont décidé de tout laisser passer, au prétexte de leur vœu d'allégeance à Donald Trump. Le fact-checking s'est fait couper le cou. Encore faut-il croire qu'il existait vraiment en ces lieux-là, où la censure apparaît depuis longtemps plus aveugle que lucide. Essayez, par exemple, d'évoquer la situation des Palestiniens sans vous retrouver isolé comme un pestiféré. Ces lieux-là sont d'abord devenus des supports à publicité très ciblés. L'essentiel des revenus publicitaires transite désormais de leur côté. Tout le reste ne compte en vérité pour rien. C'est bien ce que nous confirme l'actualité. Devez-vous aujourd'hui faire un geste en migrant de la plateforme X d'Elon Musk pour gagner le Blue Sky de Jay Gregor ou le Mastodon créé par Eugene Roshko? Faut-il migrer de la même manière de Facebook parce que Mark Zuckerberg, son grand patron, a retourné sa veste dans une profession de foi virilo-trumpiste? Ces milliardaires, des citoyens en peau de lapin toujours prêts à verser des larmes de crocodile, se comportent plus que jamais comme des fauves. À la prochaine révolution, au nom de la souveraineté de leur empire numérique respectif, qui sait si ces grands patrons ne retourneront pas jusqu'à leurs pantalons? En attendant, en agitant l'exaltation d'un sentiment national de pacotille, ils ont pris à l'hameçon la population pour poursuivre la refondation des modalités de son exploitation. Pour assurer ses débouchés et ses approvisionnements en main-d'œuvre bon marché, la Silicon Valley a mis en place des modalités pour marteler ses messages, tout en détournant l'attention des effets de la paupérisation massive de larges couches de la population. Bill Gates vient d'affirmer qu'il est sorti impressionné d'un dîner de 3 heures avec Donald Trump, lequel vient de lancer sans complexe une crypto-monnaie. Pour la cérémonie d'investiture du nouveau président américain, ils sont tous là, les tech bros. Tim Cook d'Apple, Elon Musk de Tesla et SpaceX, Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos d'Amazon, Sundar Pichai d'Alphabet et même Shukchu de TikTok. La portion américaine de cette dernière entreprise pourrait être acquise sous peu par Elon Musk à la suite d'un retournement dont Trump a le secret. Musk a dépensé au minimum 250 millions de dollars pour faire élire Trump. À la suite de cette élection, sa fortune a atteint des sommets stratosphériques. La valeur nette de Musk a grimpé de 84 %. Elle est passée, estiment les experts, de 264 milliards de dollars à plus de 485 milliards. Avec près d'un demi-billion en poche, l'homme le plus riche du monde cumule en quelque sorte le salaire annualisé de près de 10 millions d'ouvriers payés 50 000 dollars chacun. Patron sans précédent dans l'histoire de l'humanité, Musk se présente sous le titre décomplexé de Techno-King. Voici donc un monarque des temps nouveaux, flanqué de gros barons et seigneurs, devant la masse de ses serfs. Jusqu'où s'étendra leur emprise? Faites une expérience. À l'enseigne de la plateforme de communication X, essayez d'ouvrir un nouveau compte. Puis, ne bougez pas même le petit doigt. Faites-le mort. Attendez. Patientez. Ne donnez aucun signe à l'algorithme qui soit susceptible de l'orienter. Surtout, ne consultez rien. Des journalistes de France 2, la télévision française, ont tenté l'expérience. Après quelques heures seulement, ils étaient déjà submergés des publications de Musk lui-même et de ses amis trumpistes chéris. Peu importe vos idées, ces plateformes se proposent de vous fourguer les leurs en priorité. Nous ne sommes plus à l'ère de l'information. Nous entrons dans une époque de gavage. Le petit oiseau bleu de Twitter a du plomb dans l'aile. Sur X, il est question désormais d'un « vibe shift » tout noir. C'est l'expression utilisée par la droite décomplexée pour célébrer le triomphe des techno-fascistes. Est-ce seulement l'ambiance autour de nous qui change? Les standards de la communauté, comme cela est encore dit sans rire sur pareille plateforme, ressemblent désormais au mieux à des tartufferies. Oui, cacher ce sein que les bigots ne sauraient voir, mais laisser par ailleurs l'humanité être égorgée, sans rien dire, par les nouveaux monarques. Les complotistes, les fascistes et les trumpistes de tous les pays se donnent la main pour former une internationale réactionnaire vouée à reféodaliser le monde. Et devant ces maîtres, nous sommes invisibles, peut-être parce qu'ils ont d'abord su nous rendre aveugles. C'était « Les Invisibles », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 20 janvier 2025 dans Le Devoir.